conférences et débats.
Madame, monsieur, bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue à la deuxième des 6 rencontres avec les auteurs de la sélection du prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2019. Alors je suis tout à fait ravie de partager cette rencontre avec Anne-Claire Descorvet ce matin avec vous. Anne-Claire Descorvet a 3 qualités absolument essentielles. Déjà, elle sait parler, écrire sur les choses qui nous intéressent. Il est vraiment rare, hein, et vous le savez autant que moi, parce qu'on est ici entre lecteurs passionnés, il est vraiment rare d'avoir le sentiment, en ouvrant un livre, que l'auteur va nous parler de choses qui nous concernent, qui nous intéressent vraiment, qui parlent de nous. C'est le cas d'Anne-Claire Descorvet. Et puis, Anne-Claire Descorvet, c'est écrire sur l'amour. L'amour qui vient, qui va, qui rend heureux ou malheureux, ou même fou. Ça aussi, c'est rare. Et puis enfin, elle sait écrire sur les femmes, sans les plaindre, sans les critiquer, et puis en mettant le doigt avec finesse sur ce qui l'émeut, sur ce qui nous meut dans la vie. Ça aussi, c'est rare chez les auteurs. Et puis en plus, vous allez le voir tout de suite, elle est sympathique, intelligente et drôle. Merci d'accueillir vivement Anne-Claire Descorvet. Anne-Claire Descorvet, bonjour, bienvenue au Lausanne Palace.
Bonjour, voilà. Merci beaucoup pour votre accueil et pour le nombre de lecteurs ou futurs lecteurs que je vois ici, c'est formidable.
Alors bienvenue à Lausanne, vous êtes venue ce matin de Genève, vous habitez en famille avec vos 2 enfants. Alors nous le samedi matin on est soit au marché, hein, soit ici, je sais pas, d'habitude vous le samedi matin qu'est-ce que vous faites?
Alors, il m'arrive de traîner, mais il m'arrive aussi d'aller au marché à Ferney-Voltaire, de rencontrer une ancienne collègue, ses filles, de faire les courses tout en discutant très longuement.
Les hôtels, ça vous plaît ?
Les
hôtels, parce que nous, quand on est ici, on se dit, on y passerait bien la journée, le week-end. Alors, peut-être certains d'entre vous ne le quitteront pas du week-end, je ne sais pas, mais...
Alors, c'est ma première expérience Palace, et je dois dire que c'est assez exceptionnel.
Bon, on espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Alors, vous êtes là pour parler de Café des Chimères. Café des Chimères est votre 5e livre, tous parus aux éditions Bernard Campiche. D'ailleurs, nous sommes très honorés d'avoir votre éditeur dans la salle parmi nous ce matin. Alors, Café des Chimères raconte l'histoire de Salomé. Salomé du Tilleul, c'est une femme quinquagénaire, elle est journaliste dans la rédaction d'un magazine féminin, et puis elle est chargée par sa rédactrice en chef de mener une enquête sur le sujet des rencontres amoureuses en ligne, enfin amoureuses, disons des rencontres en ligne. Alors elle va s'immerger à corps, à cœur perdu dans cet univers virtuel, elle va évidemment y perdre quelques plumes. Alors c'est un sujet évidemment fantastique pour une romancière. Comment est né ce livre? Comment est né Café des Chimères? Et pourquoi avoir voulu vous emparer de ce sujet hautement concernant qu'est celui des sites de rencontres entre hommes, femmes, etc.
Le point de départ du livre, puisque je ne suis pas forcément une fanatique de l'informatique et d'Internet, mais ce sont des témoignages que j'ai entendus de la part d'amis ou de collègues, etc. Et certains témoignages étaient drôles parce qu'on me les a racontés souvent de manière drôle au second degré, mais certains, je trouvais qu'il commençait à y avoir de sacrés dérapages. Jusqu'au jour où une amie m'a confié une histoire avec un très grand sentiment de honte en me disant « je ne peux le dire qu'à toi ». Et là, j'ai senti une sorte de colère qui m'envahissait. Un peu la même colère que j'avais ressentie quand j'ai écrit le 3e roman qui parle d'une folle internée jusqu'à sa mort en Lozère. Et j'étais révoltée contre les conditions d'internement de ces fous. Et là, j'étais révoltée contre ce que pouvaient vivre certaines personnes un peu crédule, naïve, pleine d'espoir, dans des rencontres ratées. Et je me suis dit, j'ai envie de m'emparer du sujet, de parler de ça, en n'utilisant que des témoignages authentiques. Donc, tous les articles de Salomé reposent sur des faits réels.
C'est-à-dire que, ben, du coup, vous avez un peu ouvert la boîte de Pandore, vous avez commencé à questionner vos amis, vos connaissances, vous êtes allé à la pêche aux témoignages, comme on dit.
Oui, et il n'y a même pas tellement besoin de partir à la pêche, parce que les femmes, surtout, parlent très naturellement, très spontanément de leurs expériences. Et donc, j'avais qu'à écouter, et j'aime bien écouter les histoires de vie. Et j'en ai entendu encore pas mal d'autres après, mais je leur ai dit, désolé, le livre est bouclé, maintenant c'est bon, ça sert à rien.
Ça sera pour la suite.
Non, je pense qu'il n'y aura pas de suite, parce que je ne vois pas la nécessité d'enchaîner les mauvaises expériences et de raconter des histoires vraies, horribles. Bon, la vie réelle est déjà faite d'assez de désillusions.
Mais vous voulez dire que la plupart des histoires que du coup vous avez recueillies sont des histoires négatives, de rencontres, de mauvaises rencontres ? Qu'est-ce que toutes ces femmes justement vous ont confié comme genre d'histoire ?
Eh bien, par exemple, une qui est sortie après le livre, c'est quelqu'un qui me dit qu'elle a rencontré quelqu'un sur Internet et au bout de, elle a compris assez rapidement qu'en fait le gars cherchait une relation épisodique, mais c'est parce qu'il avait besoin d'un pied-à-terre à Genève. Et d'ailleurs, il est rentré chez elle et il a dit « Ah ouais, c'est petit ».
Bon, c'est plus drôle que, disons, que traumatisant, ou bien ?
C'est drôle, mais c'est tragique. Et qu'est-ce qui se serait arrivé si elle avait eu un plus grand appartement ? Eh bien, c'était peut-être une histoire tragique qui démarrait, on ne sait pas.
Quels autres types d'histoires ? Voilà un exemple. Mais effectivement, toutes ces histoires qui vous sont presque tombées dessus dès que vous avez commencé à les écouter. Voilà, quel genre d'histoire ?
Des histoires totalement saugrenues, par exemple, on m'a parlé aussi, mais après coup, donc je peux en parler plus volontiers, c'est l'histoire d'une personne qui s'est fait manipuler. La personne qu'elle a rencontrée sur Internet lui a fait changer tous ses plans de vie, ses plans de vacances, de travail, lui a demandé de l'argent en lui disant « je te payerai des vacances exceptionnelles », etc. Il y a laissé... pas mal d'argent, et en réalité, cette personne, après, on m'a dit, eh bien, c'est une psychologue, et elle est spécialisée dans le traitement des manipulateurs. Elle avait rien vu.
Le désir d'amour rend aveugle.
Alors, même une psychologue expérimentée peut vivre dans un monde de fantasmes qu'elle alimente, qu'elle couve soigneusement. Et je me disais, mais alors, si même elle cède, mais qui peut rester un petit peu sain d'esprit ? Parce qu'on ne le croit pas, mais les dérives, elles sont... On peut dire que les hommes se comportent mal, mais les femmes, il y a quelque chose aussi à analyser dans leur attitude qui font qu'elles acceptent, elles nourrissent cette espèce de crédulité qu'elles ont. Et d'ailleurs, cette psychologue, après, a lu mon livre et ça m'a fait rire parce qu'elle m'a dit « Vous ne parlez pas assez des fantasmes ». Je dis « Oui, il me semble que j'en parle un peu, mais je ne veux pas m'étaler. Enfin, tout le monde sait ce que c'est que les fantasmes d'amour et d'affection ». Et je me suis dit, mais elle en est toujours là, toujours au stade des fantasmes. Et j'ai envie que vous me parliez de tous ces fantasmes qui, à moi, me plaisent.
On reviendra sur ce qu'attendent, justement, et ce que cherchent les femmes. Mais pour rester sur un peu ces hommes, hein, parce que vous dressez un portrait, dans le fond, assez peu flatteur des hommes qui répondent, hein, à Salomé, et puis qu'elle rencontre l'espace d'un instant. Hein, elle fait une rencontre qu'elle décrit. Je sais pas, il y a évidemment des gens comme ce Tom qui, tout de suite, lui envoie des photos de ses muscles et de sa virilité de toutes les manières possibles. Hein, à peine le contact établi. Il y a ce Jules Antoine qui, dans le fond, l'invite et lui fait couper des tomates et faire de la sauce tomate toute la journée dans sa maison. Il y a ce Vladimir, alors il n'y a pas d'autre expression, hein, qui la tringle après 10 minutes dans le café. Il y a cet Adrien, ce libraire ennuyeux au possible, alors selon Salomé évidemment, ensuite, qui veut se marier après 15 minutes de rencontre. Dans le fond, vous n'êtes pas un peu injuste ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les hommes sont tous soit des salauds et les femmes toutes des candides qui se laissent prendre ?
Alors,
Non, non, parce qu'il faut bien que quelqu'un le dise. Hein. Il y a peu d'hommes ce matin dans la salle. Alors,
alors c'est toujours la question polémique, bien sûr. Est-ce que c'est un livre anti-homme ? Alors, les hommes m'ont dit, ouais, c'est anti-homme. Et les femmes me disent, c'est super et très vrai. Alors, qui croire ? Alors, c'est certain que les hommes sont un peu maltraités dans le livre. Et si un homme écrivait un catalogue des femmes qui arnaquent tous les hommes qu'elles croisent, je le vivrais très mal aussi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas de dresser des hommes un portrait consternant et de montrer comme les femmes en réaction sont consternantes aussi. Ce qui m'intéresse un peu dans tous mes livres, c'est de voir comment certaines personnalités peuvent connaître des dérapages. Je trouve que dans notre vie, on est toujours un petit peu sur une ligne de faille assez incertaine. On ne sait pas trop si on va tomber du côté normé, correct, acceptable, ou de l'autre côté, dans une espèce de folie un peu violente, autodestructive ou agressive carrément. Et c'est ce fil du rasoir qui m'intéresse. Alors dans d'autres livres, je parlais souvent des mécanismes internes qui font qu'on dérape. Pourquoi on a des failles à l'intérieur de nous qui viennent souvent de très loin? Et là, je voulais montrer comment des conditions et circonstances extérieures nous font déraper. Et je trouve qu'alors là, Internet et les rencontres via Internet cristallisent un petit peu tous les problèmes qu'on peut avoir et les failles qu'on a. Parce que c'est un outil formidable de mensonges, de dissimulation, de traîtrise. Et c'est ça qui m'intéressait. Alors pourquoi j'ai parlé que des hommes et
pas des femmes qui se comportent potentiellement elles aussi mal?
Parce que d'une part les hommes viennent pas forcément se vanter en disant j'ai rencontré une femme sur internet qui m'a totalement plumée, je suis ruinée. Ça se dit beaucoup moins, en tout cas ils me le racontent pas à moi. Et aussi je trouve souvent difficile de se mettre dans la peau d'un personnage qui est du sexe opposé. À mon avis, enfin, quand je lis des ouvrages qui mettent en scène un personnage principal qui est femme, je trouve qu'il y a des trucs qui jouent pas, ça va pas. Il y a seulement Maupassant, à mon avis, qui est extraordinaire, qui connaît les femmes jusqu'au plus intime et qui est capable d'être une femme en écriture. Autrement, c'est plus difficile et j'aimerais pour le moment pas être me glisser dans la peau d'un homme. Parce que je trouve que pour écrire de façon qui soit crédible et percutante, il faut vraiment devenir le personnage qu'on incarne. Alors là, je suis souvent devenue Salomé, qui reste un peu sans voix, devant ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, ce qu'elle subit. J'aurais eu plus de peine à être un homme dans la rédaction. Et en plus, je voulais pas faire une espèce de vaste étude sur Internet, c'est mal. Je veux pas porter un jugement moral là-dessus. Je voulais juste montrer comment certains hommes ont un comportement odieux et voilà l'effet que ça peut faire sur certaines femmes qui peuvent être vulnérables, que ça peut toucher aux zones où il ne faudrait pas que ça les atteigne.
En même temps, elle ne leur donne pas beaucoup de chance. Elle les rencontre une fois et on sait bien que, qu'on soit homme ou femme, la première fois, on se met en scène d'une manière parfois inadéquate. Donc elle leur donne aucune chance. C'est vraiment tout de suite, elle les juge, elle les catalogue. Il est ennuyeux, ou c'est un salaud, ou vraiment,
Alors c'est très vite décidé. Effectivement, mais en fait, j'avais lu une fois qu'il semble que quand on croise quelqu'un, on se fait son opinion en quelques secondes. Et cette opinion, après, est très très difficile à modifier. Et ça m'avait interloqué, parce que je me suis dit, mais attends, on croise quelqu'un, on le juge aussi vite, eh bien, il paraît que oui. Et je pense que dans la rencontre avec le biais d'Internet, en fait, c'est très anormal. On est tout de suite en train de se dire, il faut que je le juge très vite pour pas me tromper. Et on vient avec toutes sortes de préjugés. Si on a eu, une mauvaise expérience avec quelqu'un de volage, on se dira, est-ce qu'il est fidèle ou pas? Est-ce qu'il est alcoolique ou pas? Est-ce qu'on a, et puis, sans s'en rendre compte, on coche dans sa tête. on se rassure ou on ne se rassure pas. Et si apparemment tout a l'air de jouer, on se dit, c'est pas normal, pourquoi un homme parfait serait-il encore célibataire, ça cache quoi? Il y a une méfiance très souvent. Rares sont les gens qui sont allés à ces rendez-vous en me disant, j'y suis allée très décontracte et ça s'est très bien passé. Ça arrive, hein? Je le nie pas, sinon il n'y aurait pas autant de couples qui se formeraient sur Internet. Mais Salomé, elle est déjà quand même un peu problématique à la base, hein, parce que j'aime les personnages problématiques. Donc elle est cruelle, elle est cynique, elle est liste, tout ce qui ne va pas.
Ouais, elle est encore plus paranoïaque, je veux dire, elle arrive avec des a priori, évidemment, elle est fermée, quoi.
Elle est complètement fermée, ouais, exactement. Ouais. Mais parce qu'aussi, ça c'est, je trouve que c'est intéressant, elle est très prompte à voir les défauts des gens, mais quand il y a un qui se pointe et qui est parfait, enfin, il correspond à tous les critères, elle se dit, mais dans le fond, mais il ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien de... Il n'y a plus d'enjeu.
Mais alors, dans le fond, quel est votre regard sur cette manière, dans le fond, assez nouvelle encore, de se rencontrer? Quels sont les avantages, les inconvénients des sites de rencontres où, effectivement, aujourd'hui, de très nombreux couples se forment après une rencontre virtuelle? Dans le fond, est-ce que c'est bien que ça existe? Est-ce que c'est un monde d'opportunités? Ou au contraire, est-ce qu'il faudrait arrêter et puis repasser aux choses beaucoup plus réelles tout de suite?
Moi, je pense que les choses ne sont jamais bonnes ou mauvaises en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui les rend bonnes ou mauvaises. Alors, c'est sûr que des rencontres sur Internet rendent énormément de services à des gens qui ont un travail solitaire ou une vie très itinérante, enfin, qui n'ont pas la possibilité de rencontrer des gens dans leur cercle. Et d'ailleurs, de plus en plus de couples se sont formés grâce à Internet. J'ai une collègue qui me disait, je suis allée à une soirée et tous les couples s'étaient rencontrés sur Internet, sauf nous, et on se sentait tout anormaux là au milieu. Et c'est vrai. Par contre, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que ça va être la solution à tous leurs problèmes, notamment leurs problèmes à trouver, établir des relations, à rencontrer des gens. Et c'est là que ça pêche, c'est qu'on en attend peut-être trop, ou on perd un petit peu son esprit critique. Parce que c'est vrai que je connais des personnes qui ont enchaîné des rencontres calamiteuses, comme dans le livre, et qui continuent. Je comprends pas. Pourquoi s'obstiner? Est-ce que ce qu'on aime, c'est
l'amour de la quête,
hein. L'imagination, l'espoir, le fantasme, et puis on refuse que la réalité soit ce qu'elle est. Ou au contraire, comme Salomé, on se dit ça va être totalement la cata et j'y vais en me protégeant au maximum.
Ou comme sa jeune collègue, hein, on viendra à la relation entre Salomé et sa jeune collègue, comme une forme de divertissement. Dans le fond, on peut meubler son week-end en prenant des rendez-vous avec des tas d'hommes, et c'est une forme de divertissement. D'où peut-être l'envie de continuer à consulter, à rester en ligne, dans ce monde-là, sans jamais trouver la bonne personne.
Il y a une forme de divertissement. D'ailleurs, les cocktails coulent pas mal à flot au Café des Chimères. Mais il y a peut-être aussi un risque un peu addictif. On est seul chez soi, on ne sait pas quoi faire, on ouvre l'ordinateur et voilà, il y a un potentiel illimité de personnes à rencontrer. Cela dit, c'est quand même, je pense, un stress. La première rencontre... Il y a des jeunes qui m'ont dit, en fait, qui fréquentaient Tinder, qui m'ont dit, en fait, c'est comme un entretien d'embauche. Moi, je le sentais pas du tout comme ça, à mon âge.
Bonjour le plaisir.
Bonjour le plaisir. Mais ils m'ont dit, on a en fait un temps, voilà, on va boire un café ou un cocktail une demi-heure, on doit convaincre. On doit convaincre qu'on est bien, qu'on est en forme, dynamique, qu'on a fait plein de choses intéressantes, qu'on est prêt pour une relation passionnante et passionnée. Et alors, c'est un stress terrible, on doit convaincre, mais on doit convaincre qui? Je veux dire, quand vous postulez pour un réel entretien d'embauche, vous savez que vous serez, prof à tout hasard. Vous devez convaincre que vous avez les compétences requises. Mais là, vous devez convaincre quelqu'un que vous connaissez pas. Et tout d'un coup, ce jugement-là prend une importance excessive. Pourquoi je devrais convaincre machin que je connais pas, qui est peut-être un abruti, que je suis une femme super? Et si il n'est pas convaincu, je me sens totalement nulle, moche et débile. Mais c'est absurde.
Mais on peut trouver le grand amour sur Internet quand même.
On peut le trouver. Et c'est bien pour ça que tous les autres y rêvent.
Et vous-même, vous êtes amusé, vous avez enquêté, vous avez, pour documentation ou autre, vous êtes plongé dans ce monde-là?
Je m'y suis plongée très vite et très peu. Parce que c'était un peu comme ce que je décris là, c'était assez calamiteux. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de poursuivre longtemps la démarche?
Mais est-ce que ça vous plaisait? Est-ce que c'était amusant? Est-ce que c'était romanesque? Inspirant pour une écrivaine?
Romanesque en tout cas pas. C'était relativement consternant, je dirais. Par contre, ce qui était rigolo, c'était de le faire avec une copine. Il m'est arrivé de faire en duo ensemble, et alors là, c'est consternant.
Vous avez rencontré le même homme ?
Non, pas le rencontrer, simplement discuter sur Internet. Elle m'a dit, j'ai croisé un homme très bien, parfait, puis je dis, attends, ton homme très bien, je suis sceptique. Je me branche sur l'homme très bien, ah ben, en trois répliques, j'avais une proposition hot. Et vous avez dit tringler, c'était vraiment ça. Elle était stupéfaite. Et je lui avais dit juste, je suis en train de tricoter dans mon salon. Enfin, des choses vraiment très, très neutres.
Vous cherchiez à éteindre l'incendie, c'est
oui,
ça?
Oui, non, parce que si j'avais allumé le feu, alors là, c'était pas une expérience tout à fait objective.
Mais à vous entendre, d'ailleurs, et à vous lire, à lire qu'il y a des faits des chimères, on a l'impression qu'il y a un décalage complet entre les attentes des hommes sur les sites de rencontres et les attentes des femmes sur les sites de rencontres. C'est aussi ce que vous tentez de décrire?
Oui, alors effectivement, j'ai eu l'impression qu'il y avait des attentes très différentes. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à parler des femmes et des hommes en même temps. Alors certainement, il y a des hommes très romantiques et très de bonne foi. Mais bon, alors en tout cas, moi, je les ai pas vus hein, pendant mon court séjour comme une météorite. Et les personnes qui m'ont raconté des histoires, assez peu. Mais je veux pas rester dans les clichés parce que c'est vrai que ça reste caricatural. C'est pas l'objectif du livre. L'objectif du livre, c'est plutôt de voir comment une personne peut être poussée dans ses retranchements en passant d'un monde virtuel à un monde réel. Et puis après, elle, au lieu de découvrir quelqu'un d'autre, finalement, elle se découvre elle. Et ce qu'elle découvre sur elle est pas reluisant, est pas ce à quoi elle s'attendait. Elle pensait que eux était entre guillemets très noire, elle était tout à fait blanche, et la vérité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Et c'est ces zones d'ombre sur elle-même qu'elle découvre. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment on se découvre? Parce que c'est très narcissique, finalement, Internet. Est-ce que vraiment vous vous intéressez au profil de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ce qui vous plaît, c'est de vous dire, ah ben moi, je suis comme ci, comme ça, voilà ma formation, mes goûts, mes intérêts. Puis plus vous persévérez, plus vous vous centrez sur vous, mais pas forcément sur l'ouverture envers quelqu'un d'autre. Dans la vie courante, on voit les gens, on se dit pas tout de suite, ah, il y a une potentialité de sortir avec un tel. On discute, on est ouvert, on est, voilà. On n'est pas toujours narcissique à s'auto-observer, mais dans le cadre de rencontres, oui, c'est pas terrible comme attitude.
Alors, Salomé donne rendez-vous à ces hommes au Café des Chimères, un café un peu, dans le fond, un peu kitsch, un peu agréable, un peu peut-être désuet, qui ressemble beaucoup, j'imagine, dans votre tête, en tout cas, au café, à l'image de couverture de votre livre. Et puis, passe régulièrement en fond un morceau de musique qui vous a vous-même accompagné pendant l'écriture du livre, un morceau de musique qu'on va écouter. Et vous nous direz ensuite ce que c'est et puis pourquoi c'est le morceau de Salomé et le vôtre aussi, du coup, en partie.
besame mucho. ¿Cómo se fue esta noche? Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame mucho. ¿Cómo se fue esta noche la última vez?
Alors, qu'est-ce que cette belle chanson, Anne-Claire Descorvet?
Mais quand on l'écoute, on est pris d'une espèce de nostalgie d'amour, non ? C'est poignant, c'est extraordinaire. On se dit, mais on a envie d'aimer, d'être aimé. C'est en même temps beau et c'est triste. Et je trouve que Cesaria Evora, elle est extraordinaire. Je l'ai écoutée un peu en boucle en écrivant Café des Chimères. Elle exprime tellement bien une chose et son contraire. Que son est prenant. On est en même temps triste et heureux, on est nostalgique et plein d'espoir. Tous ces contraires cohabitent de manière harmonieuse et ça fait vibrer. Je trouve que ça ouvre le cœur et l'esprit.
Est-ce que c'est une chanson qui vous accompagne depuis longtemps?
Depuis une dizaine d'années, je dirais. J'aime beaucoup Cesaria Evora. Ouais. Je trouve qu'elle est, c'est une... C'est le top des chanteuses.
Ouais, merci d'être venue avec cette chanson superbe, effectivement. Alors, sur le sujet de la recherche d'amour par Internet, se greffe un deuxième sujet dans votre roman Café des Chimères, tout aussi concernant pour la quinquagénaire qu'est Salomé, votre héroïne, la rivalité avec Mélisse. Mélisse est une jeune et jolie stagiaire qui vient d'être engagée dans la rédaction du journal féminin pour laquelle Salomé travaille. Et puis Salomé est dépitée, enragée. En fait, la présence même de devant la jeunesse de Mélisse, son enthousiasme, cette espèce de naïveté, de dynamisme, en gros, la rend folle de rage. Et c'est extrêmement bien décrit. C'est très drôle aussi, parce que les choses pathétiques peuvent être très drôles aussi. Alors, dans le fond, cette jalousie de Salomé pour Mélisse, pourquoi avoir eu envie d'en parler? Est-ce que c'est un sujet très concernant justement pour toutes les Salomées du monde?
Alors, je me suis fait un petit peu, violence sur mes principes, parce que je crois beaucoup à la solidarité entre les femmes. On nous présente toujours comme des espèces de harpies qui se crêpent le chignon, mais pas du tout. En réalité, les femmes, quand une d'entre elles a des difficultés, les autres répondent très souvent et comprennent de façon très intime ce qu'elles ressentent. Mais là, le facteur mise en rivalité sur des sites de rencontres joue beaucoup. Parce que finalement, ça peut éveiller deux sentiments. Quand on voit les gens qui sont sur ces sites, hein, avec leur téléphone, ça fait comme ça tout le temps, on zappe, on passe de l'un à l'autre, elle est canon, elle est moche, celle-là, oui, je match, celle-là, non, je laisse tomber. Et nous, on sait très bien que ça se passe comme ça. Donc on sait qu'on a une photo qui passe, et puis c'est oui, non, oui, non. C'est un caractère un peu éphémère et interchangeable qui angoisse beaucoup. Alors déjà, quelqu'un comme Salomé, qui est un peu fragile, ça l'angoisse. Mais en plus, ça induit forcément une rivalité, parce que naturellement, seules les plus jolies, plus jeunes et plus plaisantes ont des chances maximum. Les autres, elles se disent « oups ». D'ailleurs, une fois, quelqu'un m'avait dit « j'ai pris le Tinder de ma sœur et j'ai vu les gars qu'elle voit et je me suis dit « oh là 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 là, j'ai pas le format Apollon qu'il faut ». Et totalement déprimée, il a fallu lui remonter le moral. Donc, ça angoisse et ça donne un côté de rivalité. Et rivalité que j'ai commencé à expérimenter un peu moi-même. Donc ça vient de ce que je ressentais moi au travail.
Donc vous avez une longue carrière d'enseignante.
Voilà, j'ai enseigné pendant longtemps et puis à la fin il y avait des petites jeunes qui se mêlaient de me dire non mais tu sais Anne-Claire, nos élèves il faut considérer que, et je me disais non mais attends, toi t'as 5 ans d'expérience, tu viens me dicter comment moi qui connais rien je devrais faire. T'as une position hiérarchique, mais tu jouais au Barbie quand moi j'étais déjà prof chevronnée, et je l'ai très mal vécu. Et je me suis dit, oula, mais voilà, le temps a passé. Et puis, comment on ressent l'arrivée des jeunes qui ont l'air totalement, mais infatigables, hein. Et peut-être que moi, je l'étais aussi quand j'étais plus jeune, complètement forcenée et passionnée. Et après, j'ai eu plus de philosophie. Et on se dit, comment tenir la rampe? Et ça m'a intéressée de parler du thème du vieillissement. Parce que quand j'étais jeune, j'étais choquée de la façon dont les jeunes traitaient les personnes âgées. Je trouvais qu'ils étaient souvent irrespectueux. Et en vieillissant, je me suis dit, mais en fait, les personnes âgées, elles sont pas beaucoup plus indulgentes envers les jeunes. Souvent même, elles en sont jalouses. Parce que ces jeunes ont un potentiel de vie devant eux, et je trouvais intéressant de creuser cet aspect de jalousie dans les relations amoureuses, mais aussi dans intergénérationnelles.
Mais alors du coup, ce qui est dans le fond assez glaçant, mais évidemment très pertinent, c'est que vous décrivez tant l'amour comme le travail, comme des marchés. Il y a le marché de l'amour, il y a le marché du travail, et puis dans le fond, la date de péremption semble très très vite atteinte. On voit bien que les critiques sur l'âge, sur le physique, sur le comportement, et que le critère de si on est jeune et frais ou si on est vieux et déjà un peu moins frais, ça compte beaucoup, que ce soit dans les relations amoureuses ou que ce soit dans le milieu du travail.
Mais est-ce que c'est pas la réalité, en fait?
Et mais qu'est-ce qu'on peut faire, docteur Descorvets?
Je trouve que c'est une réalité qui s'est beaucoup durcie ces derniers temps. Et on demande aux gens d'être toujours hyper efficaces, qu'ils aient 20 ans, 30 ans ou 60 ans, et maintenant on parle de la retraite à 67 ans, mais comment voulez-vous qu'une aide-soignante de 66 ans soit encore au maximum de ses capacités? Je trouve que le marché du travail s'est durci, le marché relationnel s'est durci. Que faire? Je trouve, j'ai pas vraiment de solution, mais je trouve que les machines, les robots, oui, peuvent travailler de manière infatigable en sortant d'usine et encore 15 ans après. Les hommes, pas. Est-ce qu'on peut pas retrouver un peu d'humanité dans les rapports professionnels et humains?
Vous dénoncez une forme de jeunisme ambiant que vous constatez partout?
Ah oui, clairement, oui.
Effectivement, Salomé. Bon, alors surtout parce que beaucoup dans la salle n'ont pas lu votre livre, en tout cas pas jusqu'au bout. Donc, on ne dira pas comment Salomé trouve un exutoire à cette. Et voilà. Et merci pour elle quelque part. Vous-même, dans le fond, vous êtes. Vous habitez Genève. Vous êtes né à Genève, mais vous avez grandi quelques années à Haïti.
Oui.
Voilà. Et dans le fond, et ensuite, effectivement, vous êtes revenu à Genève, des études de lettres, avec notamment, je crois, de la philosophie, de l'hébreu et du français, et puis l'enseignement. Alors, qu'est-ce qui reste de ces quelques années passées enfant et jeune adolescente à Haïti? Est-ce que peut-être ce goût de l'ailleurs, vous l'avez gardé? Voilà. Qu'est-ce qui a peut-être fait que vous êtes devenue aujourd'hui Anne-Claire Descorvet, écrivaine?
Je pense que ces années haïtiennes sont des années qui ont été pour moi déterminantes dans l'observation du monde, puisque c'était des années qui étaient quand même hautement risquées pour Haïti. C'était les débuts de la dictature de François Duvalier. Il fallait être tout le temps en état de super vigilance et très attentif. Et je pense que ça a déclenché chez moi une espèce de surobservation. Dans le cadre de la famille, déjà, les parents sont-ils inquiets, sont-ils détendus, de façon générale, où est la violence? Comment va-t-elle s'exprimer? Est-ce qu'il y a du danger? De quoi faut-il se prémunir? Et je crois que cet état d'hypervigilance marque ensuite quelqu'un. Et ça m'a aidé à mettre beaucoup plus dans l'observation permanente des gens, de ce qu'ils ont à l'intérieur. Et plutôt que dans l'action irréfléchie et sur des coups de tête, j'observe beaucoup plus que j'agis.
Et à quoi vous destiniez-vous, adolescente?
Alors, pendant toutes mes années collège, je rêvais d'être chirurgien. J'ai toujours aimé, ce qui est intellectuel, mais ce qui est manuel beaucoup, le bricolage, la couture, enfin tout ce qu'on peut faire de ses mains. Et je trouvais que c'était un métier formidable qui alliait les deux. Et puis quand j'ai enfin terminé ma matu, je me suis dit encore la médecine, j'ai plus envie, c'est trop long. Est-ce que vraiment je veux passer toutes mes années de jeunesse dans les hôpitaux et sur les bouquins? Non. Et je me suis réorientée en direction des lettres.
Faculté de glandeur, comme tout le monde sait. Non, parce que là, effectivement, on est dans un autre cliché où les lettres, c'est tellement plus facile. Vous choisissez la philosophie, l'hébreu et le français. Pourquoi l'hébreu?
Pour différents motifs. J'avais déjà étudié les langues anciennes au niveau du collège. Et je trouvais qu'une troisième langue ancienne, ce serait bien. Et je viens d'une famille de pasteurs aussi. Et je pense qu'il y a une familiarité avec la Bible qui, même si je ne l'ai plus du tout maintenant, m'intéressait. Et on peut comprendre notre histoire quand elle vient de Rome, de la Grèce, mais aussi toute cette mentalité de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont quand même énormément formaté nos esprits. Et je voulais creuser aussi cet aspect-là.
Alors, en parlant d'histoire et de famille, vous êtes venu avec un objet. Hein, rituellement, à chaque rencontre, nous demandons aux auteurs de venir avec un objet qui a du sens pour eux, qui les accompagne. Alors, il est tout petit. Je vais vous demander, dans le fond, de lever la main et d'écrire. Effectivement, quel est cet objet et quelle histoire a-t-il?
Alors, cet objet, c'est une bague que je porte au doigt, une bague en argent, toute simple, qui ressemble un peu à une chevalière. Je ne sais pas depuis quand je la porte, mais ça doit faire plus de 30 ans, jour et nuit, tout le temps. C'est un drame s'il faut l'enlever. Cette bague a été achetée par ma mère quand elle faisait une traversée du Sahara en camion avec mon frère. Et ils sont tombés sous une tente touareg sur une femme qui pétrissait la farine pour faire des galettes. Et cette bague a beaucoup plu à ma mère qui a été négociée avec le mari de la dame qui l'a donnée. Et je suis tombée amoureuse de cette bague. Je ne sais pas comment dire pourquoi, je l'ai trouvée magnifique et ma maman me l'a donnée. Et ce geste m'a beaucoup touchée parce qu'elle l'aimait aussi, cette bague. Mais elle a pensé que sa fille valait plus que la bague. Et c'est comme si ma mère était toujours avec moi, d'une part, et c'est précieux. Et c'est aussi une bague qui est très, très ancienne. Je l'ai montrée à un Touareg qui m'a dit tout est effacé, les inscriptions, les saillies. Donc c'est une bague qui a été portée par de très très nombreuses femmes, et ça me plaît d'imaginer que c'est une bague qui a toute une histoire, même si c'est pas une bague de famille, mais elle vient de très loin, de ces femmes qui pétrissaient le pain, qui faisaient des travaux de femmes, et il y a une espèce de continuité. Et ma fille m'a déjà dit, ça c'est mon héritage. Et tu diras à mon frère que c'est pour moi. Je lui ai dit, oui, bien sûr, mais laisse-moi la porter jusqu'à ce qu'elle t'en vienne.
C'est à ça qu'on comprend que l'âge avance aussi, ou bien ouais. Quel âge ont vos deux enfants?
La trentaine.
Ouais. L'écriture, vous publiez des livres depuis 2010. Vous avez d'ailleurs gagné le prix Georges Nicolle en 2010 avec un recueil de nouvelles en Habit de folie. Et puis, dans le fond, vous avez enchaîné. Donc, vous qui plaigniez on est tellement actif quand on est jeune et après ça devient plus difficile. Franchement, 5 livres entre 2010 et 2018. Félicitations. C'est le signe d'une grande activité littéraire. Donc, comment l'écriture est entrée dans votre vie? J'imagine que vous avez écrit bien avant de publier.
En fait, non. Parce que j'osais pas pendant très longtemps. Parce que vous avez dit, c'est les glandeurs qui vont en lettres.
Alors, de comprendre votre propre raisonnement en disant « la médecine, c'est trop long, je vais aller là où c'est
court ». Non, mais je me sens pas du tout vexée parce que je l'ai écrit dans le bouquin. N'importe quel glandu peut réussir les lettres, sauf le fils du candidat numéro 1, qui même les lettres, il les loupe. Non, c'est vrai.
Justement, j'y pensais. Oui, l'écriture.
En fait, ça fait une dizaine d'années que j'écris parce que après avoir lu tous les meilleurs auteurs, c'est pas possible de s'y mettre aussi. Moi, je suis une fanatique de Montaigne, par exemple. Mais qu'est-ce que vous voulez rajouter? Et vous êtes tout gêné d'écrire. Et puis, il y a 10 ans, j'étais dans un état où vraiment je savais pas comment exprimer toutes les choses qui me révoltaient, qui m'accablaient, qui me mettaient dans une colère terrible. Et finalement, j'ai commencé à écrire. Et Dieu merci, j'ai trouvé un exutoire grâce à Bernard Campiche qui publie les livres. Et donc, il fallait une espèce de nécessité. Avant, tout simplement, je me disais, pourquoi rajouter encore quelque chose à des gens qui ont déjà tout dit et tellement bien dit? Et maintenant, je me dis, je me lance, après tout, pourquoi pas moi aussi?
Voilà. Et depuis, quel plaisir vous avez à le faire et quelle place ça prend dans votre vie?
Alors, au début, ça a pris une place énorme. C'était tous les week-ends, toutes les vacances, tous les jours de congé, je passais à écrire. Maintenant, le sentiment d'urgence m'a un peu quitté parce que je me dis, il n'y a pas que le boulot, l'écriture, il faut aussi profiter de la vie. Au début, c'était aussi très pénible parce que quand vous vous mettez dans la peau de personnages qui déraillent, par exemple, une folle en Lozère par moins 10 degrés, c'est un peu fatigant quand même et pénible. Alors maintenant, je prends un petit peu de distance et j'essaye d'écrire plus pour le plaisir. Alors, j'aimerais écrire des choses un peu drôles, un peu légères, mais je sais pas pourquoi mes personnages, ils deviennent tous dingues après la page 100 et puis j'y arrive pas.
Avant d'être fou, ils nous font quand même assez. Salomé, vous avez beaucoup d'ironie. L'ironie, c'est de l'humour, c'est une forme de légèreté malgré le sujet un peu voilà.
J'aime bien quand même garder un regard humoristique sur les choses.
Je vous propose qu'on ouvre la discussion avec le public pour des échanges, des questions sur tout ce qui vient d'être dit ou d'autres choses qui n'auraient pas encore été dites. Je vous levez juste la main, comme ça je vous amène le micro. Voilà. Merci, j'amène le micro.
Bonjour, c'est Madame Bassoun. Je souhaitais vous remercier pour votre intervention et votre ouvrage. Et puis, j'avais juste la question, parce qu'au départ, il y avait ce conflit très dressé entre l'homme et la femme, ou la femme et l'homme. Je me demandais si l'ouvrage, c'était pas aussi, plus que de dresser un sexe contre l'autre, il n'y avait pas aussi la question de la solitude, de la difficulté aujourd'hui de ces deux sexes de se rapprocher, de se rencontrer. Et puis aussi cette quête d'idéal qui est finalement liée à la condition humaine, cette quête d'idéal confrontée à la médiocrité de l'homme, mais pas l'homme-homme, der Mensch en tant qu'humain. Et puis finalement aussi, quand vous parliez des marchés de l'amour et des marchés du travail, ce parallèle, Est-ce que c'est pas lié à la pression aussi qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés normatives, dès qu'on sort d'une norme, qu'elle soit physique, intellectuelle, mentale? Est-ce que tout de suite on n'est pas un petit peu laissé sur le banc? Et c'est pas aussi ça que vous pointez du doigt à travers cet ouvrage? Merci.
Alors effectivement, la question de la norme, elle me préoccupe toujours, hein, parce que puisque j'ai ces personnages qui dérapent, c'est bien qu'ils supportent plus cette pression. Et moi, je suis souvent étonnée quand je vois les gens agir ou que je les entends autour de moi. Je me dis, ils sont tous tellement bien, tellement lisses, tellement normaux. Et quand je les entends et que j'entends des histoires de vie, je me dis, mais tout ce qu'il y a derrière de désespéré, de questionnement, d'angoisse, mais rien ne transparaît, ou à moins qu'on fasse l'effort de traverser cette espèce de carapace. Et ça m'impressionne toujours. Et la vie est un effort permanent pour paraître normal. Et c'est peut-être pour ça que la folie m'intéresse parce que ces gens qui dérapent et qui osent dire, eh ben moi j'arrive plus à rentrer dans votre carcan, c'est pas possible. Je trouve ça en même temps courageux, fascinant et dramatique, parce que quelle pression ça veut dire qu'on a subi. Maintenant, quand vous parlez de dresser un sexe contre un autre, c'est pas ce que j'entends faire. Je me suis placée du côté d'une femme, oui, parce que je les comprends mieux et je comprends une partie de leurs réactions, même si moi j'aurais pas les réactions de Salomé, mais je peux les comprendre. Mais concrètement, je trouve que on est aussi dans une société où on est très très différent, et on a du mal à accepter ces différences des fois. On voudrait pas qu'il y ait ces différences là. J'étais à une rencontre avec des amis, puis c'était rigolo parce que le groupe, au bout d'un moment, c'était trois femmes d'un côté, trois hommes de l'autre. On n'a pas dit on se sépare, mais spontanément ça s'est fait et il y avait des discussions des uns et des autres. Est-ce que c'est mal? C'est comme ça. Maintenant, j'essaye toujours d'éviter de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mais c'est vrai que ce refus d'accepter les différences, ça conduit après à des affrontements qui peuvent être très durs.
Merci. Quelqu'un d'autre, madame?
Bonjour, mais... Pardon. Merci beaucoup d'être là, et puis c'est très intéressant de suivre toujours ces débats. Je veux juste vous dire, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, mais ce qui me reste, c'est pas tellement ces rencontres sur Internet, c'est plutôt ce personnage de Salomé, et surtout la fin que je trouvais, je vais pas la dévoiler, mais surtout le manque de remords, et puis... tout ce qui s'ensuit, c'est ça que je retiens le plus, les rencontres entre Salomé et puis ses hommes. Ça m'a pas trop touchée, je dois dire. Alors voilà ce que je dis de votre livre. Merci.
Alors effectivement, l'héroïne subit un certain nombre de choses qu'elle n'aurait pas désirées. Et puis moi j'y pense souvent, parce que je trouve que c'est assez violent souvent la vie, et il y a deux façons de réagir. Soit vous absorbez cette violence et vous la retournez contre vous-même, donc vous êtes totalement déprimé, malade, anorexique, Dieu sait quoi, vous vous faites du mal à vous-même en plus de celui qu'on vous a déjà fait, et ça on le voit souvent. Ou alors vous réagissez. Dans un sens, c'est assez sain de dire « on m'a agressé, je renvoie les faits plutôt que de m'en vouloir à moi ». Malheureusement, effectivement, Salomé maîtrise plus très bien sa pulsion de réponse, et elle l'adresse peut-être à la mauvaise personne. Elle aurait peut-être mieux fait de flanquer une claque à celui qui lui faisait couper les tomates, mais sur le moment, elle n'a pas eu le réflexe parce qu'elle n'était pas encore prête à passer à... Elle était encore, disons, trop dans la victimisation. Et à un moment donné, elle se dit « mais j'en ai marre d'être une victime, pourquoi victime ? Moi, je ne suis pas d'accord, je veux être agresseur pour une fois. » Mais souvent, ça tombe sur la mauvaise personne. D'où son absence de remords. On lui a fait du mal, elle en fait, c'est la loi du talion.
Voilà, bon, chut. Non, on n'en dira pas plus. qui d'autre pour une question, remarque ? Voilà. Vous permettez que je passe à monsieur ? Je me dis, hein, on les a assez maltraités.
Oui, je voulais dire que, par exemple, si on est dans une salle, il y a plusieurs personnes qu'on trouve sympathiques, pas forcément toutes, mais peut-être qu'il y en a sur 100 personnes, il y en a 2 ou 3 avec qui on envisagerait peut-être de faire toute sa vie. Pourquoi est-ce que ce serait différent sur les sites de rencontres ? Ça, c'est ma première remarque. Et puis, deuxième remarque, dans ces espèces de relations victime-bourreau, finalement, pour accepter de faire quelque chose qui ne nous plaît pas, bah, faut être deux. Et puis, d'une espèce peut-être de candeur ou de naïveté de la part d'une des deux personnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, il y a effectivement beaucoup de candeur, de naïveté. Mais alors, c'est alimenté par deux processus, je pense. D'un côté, on souffre de solitude puisqu'on se met sur ces sites et le fait de se sentir seul rend déjà vulnérable parce qu'on est en demande, on se sent mal avec soi, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, il y a une vulnérabilité. Et en plus, la vulnérabilité, je crois que on l'a tous en soi. Et le fait de chercher, d'attendre quelque chose d'autrui rend encore plus vulnérable. Et c'est peut-être pour ça que ce personnage se barricade autant. Elle est en même temps trop crédule, trop naïve, trop fragile, mais elle est en même temps trop dure, trop sévère, trop exigeante. Et j'aime bien les personnages qui ont toutes les facettes. Ce que j'aime montrer, c'est que la vie n'est pas simple. Et elle n'est pas. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Il y a des gens qui. Oui, des gens qui non. C'est tout l'intermédiaire et tous les rapports humains compliqués qu'il y a entre deux qui m'intéressent. Cela dit, oui, il y a des choses qui se passent des fois simplement, comme des évidences. Malheureusement, elles sont rares.
Moi, c'est par rapport à l'urgence dont vous parlez, et aussi de la durée des rencontres. Là, je me disais, en vous entendant, que les speed dating, ça doit être meurtrier, mais enfin, c'est pas le sujet. Salomé a 50 ans, hein, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être qu'elle ressent une sorte d'urgence à rencontrer quelqu'un qui justifie sa démarche, mais il y a aussi des personnes, des jeunes qui vont sur Internet, qui vont sur les sites de rencontres. Est-ce que vous avez eu des témoignages de jeunes femmes, puisqu'on parle des femmes surtout, qui à 25, 30 ans n'arrivent pas dans la vraie vie à rencontrer quelqu'un et vont sur les sites de rencontres?
Oui, il y a beaucoup de jeunes qui les fréquentent parce que justement ils ont finalement beaucoup d'amis, mais pas d'amis qui les intéressent sur le plan sentimental ou ils sont dans une relation qui les déçoit. Et ils cherchent pour trouver autre chose. Et les comptes rendus que j'étais, c'est que oui, ils faisaient des rencontres qui pouvaient être satisfaisantes à court terme, mais à long terme, non.
Bon, mais c'est pas très positif.
J'ai l'air comme ça négative, mais peut-être qu'il y a plein de gens là qui pourraient dire « Ah non, mais moi je suis pas du tout d'accord, moi j'ai trouvé ça formidable, et puis Dieu merci, il y a cette opportunité, et puis je suis pas problématique du tout comme vous le décrivez pour votre héroïne. » Mais c'est vrai que l'héroïne à 50 ans, elle ressent une urgence, ça c'est sûr, et elle arrive aussi avec tout le poids du passé. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir une personne de 50 ans. Elle a le poids du passé qui l'ont amenée à toutes sortes de vigilance. Elle veut plus tel genre de personne, ni tel genre. Et ça, quand on a 25 ans, on est ouvert à tout. Après, à 50 ans, on se dit revivre un truc comme j'ai vécu avec tel profil. Ah non, ça plus jamais. C'est bon, j'ai donné.
Monsieur.
Lorsque je vous écoute parler de votre livre, ça suscite en moi de l'empathie pour votre propos. Et lorsque j'ai lu le livre, je n'ai absolument pas ressenti cela. J'ai d'abord été évidemment, mais on en a abondamment parlé, un peu énervé par votre manière de parler des hommes, mais j'ai été énervé aussi par votre héroïne, Salomé. Et je me demande si ce qu'il y a un peu d'excessif dans la manière dont vous parlez des uns et de l'autre, au bout du compte, ne dessert pas un peu votre propos. En tout cas, c'est ce que je ressens.
Donc, dans le livre, vous voulez dire ? Oui ? Alors, c'est vrai que le livre peut, à première vue, paraître un peu tranché. Hein ? D'un côté, il y a les méchants hommes, et puis de l'autre côté, il y a les femmes qui sont... Moi aussi, elle m'énervait en certains moments, Salomé, j'avais envie de lui dire « Non, mais arrête, pourquoi tu t'obstines ?» Elle dira « c'est ma rédactrice en chef qui m'oblige. » Attends, mais sa rédactrice en chef l'oblige pas à tout subir et à tout supporter. Mais ça correspond à des choses que j'ai aussi entendues et qui m'ont énormément interpellée. Pourquoi des femmes persévèrent ? Et c'est là que j'ai compris la puissance de l'imagination par rapport à la réalité. J'oublierai jamais une phrase que m'a dite une fois une élève, elle avait 14 ans, moi je me suis dit elle a beaucoup plus de maturité que moi. Elle m'a dit, j'essaye toujours de voir la réalité telle qu'elle est et pas telle que je voudrais qu'elle soit. Et je me suis dit, ça c'est vraiment le problème de Salomé, elle n'arrive pas à voir la réalité telle qu'elle est. Elle voit que ses projections à elle. Et ça la rend énervante, effectivement, parce qu'elle elle en devient butée et stupide.
Merci. Encore une question. Je me tourne à gauche, à droite. Monsieur.
Voilà, je vous remercie pour ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors moi, j'ai été plus pris justement par la dynamique de Salomé, en fait, hein, les réflexions qu'elle se fait, etc. Non, moi, je suis vraiment entré là-dedans. Je me reconnais évidemment dans aucun de ces hommes. Et puis moi, je me questionnais sur la dédicace, en fait. Vous dédicacez ça à une certaine Gabi,
oui,
qui crée les belles rencontres et sait réparer les mauvaises. Alors ça m'intrigue de savoir éventuellement qui c'est, cette personne.
Ah ben, Gabi, elle peut se lever. Elle est là, Gabi. Ouais. Voilà.
Voilà. Bah, je vais lui passer le micro, peut-être qu'elle peut se présenter.
Je ne m'attendais pas à celle-là, mais... cette dédicace, ben, j'ai été très touchée quand Anne-Claire me l'a dédiée. Alors, elle m'a présenté tout à l'heure à Isabelle Folconnier d'un point de vue professionnel, mais moi, je l'ai plutôt reçue sur le plan de notre amitié à toutes les deux, puisque on a beaucoup partagé de choses ensemble et je me reconnaissais tout à fait dans ce que tu disais de la solidarité entre femmes. Et voilà. Mais la profession, oui, alors la profession, j'ai été pendant un certain nombre d'années thérapeute de couple et de famille, je suis pasteur, je suis aumônière à l'hôpital, donc je rencontre beaucoup de gens, c'est vrai. Mais là, c'était plutôt par rapport à notre lien.
Alors Gabi, la femme de mon frère, que j'aime énormément mon frère, et par chance, j'aime énormément ma belle-sœur. C'est une femme formidable qui crée effectivement des relations magnifiques avec les gens qui l'entourent. Et quand j'ai un problème de tout ordre, relationnel aussi, elle est absolument merveilleuse d'empathie, de conseils, etc. C'est l'exemple des femmes solidaires, ça c'est vrai.
Merci. Quelqu'un d'autre pour une question ? Si c'est pas le cas, effectivement, que Anne-Claire Descorvées, merci beaucoup pour le moment passé ensemble. Vos lecteurs et lectrices peuvent vous retrouver évidemment sur la table de dédicace juste avant la sortie. Vous avez deux livres avec vous, Café des chimères, mais aussi Avant la pluie, qui est paru il y a 2-3 ans et qui est un livre poignant que je recommande à ceux qui ne l'auraient pas lu, qui décortique un événement très dur puisque c'est la mort d'un jeune enfant, mais ensuite qui regarde à travers tous les personnages qui gravitent autour de lui comment on est arrivé à cet accident avant la pluie, donc qu'on pourra aussi vous évidemment vous demander de dédicacer. Je remercie évidemment le Lausanne Palace de l'accueil et de l'apéritif qui suit maintenant dans la rotonde juste passer les portes. Je remercie notre libraire Camélia d'assurer rencontre après rencontre la présence des livres. Camélia est d'ailleurs venue avec aussi les livres des rencontres suivantes, dont celui signé Auguste Cheval, donc Laurent Kung alias Auguste Cheval, puisque le 1er décembre nous serons avec lui et non pas Pascal Kramer, puisqu'ils ont échangé leur rencontre. Pascal Kramer viendra en mars, mais je vous incite évidemment à venir écouter Laurent Kung, qui est un jeune auteur coursier à vélo absolument très attachant et fantastique. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Merci à vous surtout de votre présence, Anne-Claire Descorvées. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci, c'était super. Merci.